soit jugé, il ne peut s'empêcher de faire une promesse de miséricorde au premier couple perdu. Il met l'espérance dans le cœur de ce premier couple qui doit être chassé d'Éden. Il met l'espérance par quelle promesse? La postérité de la femme écrasera un jour la tête du serpent, mais le serpent blessera la postérité de la femme ou au talon. Qu'est-ce que c'est que le talon? C'est la partie la plus basse de notre humanité, n'est-ce pas, par laquelle nous touchons à la terre. Ainsi, il y a une prophétie qui montre que la semence de la femme, c'est qui? C'est Jésus, semence de la femme, née de la Vierge Marie, et il sera blessé au talon, c'est-à-dire atteint dans son humanité, ça a eu lieu à la croix, hein, il était blessé dans son humanité, mais en étant blessé dans son humanité, alors que Satan pouvait penser que c'était son triomphe à la croix, il avait réussi à mettre à mort le libérateur promis, eh bien, il allait avoir la tête écrasée, sa puissance allait être écrasée, parce qu'en entrant dans la mort, Jésus a vaincu l'homme fort, et il en est sorti victorieux, il a triomphé de Satan, il a triomphé de la mort. Mais il y a eu une lutte, n'est-ce pas, depuis la première page de la Genèse, jusqu'à la naissance de Jésus, vous voyez que le diable a cherché d'où devait sortir le libérateur, et on pourrait faire le panorama extraordinaire de cette lutte à un moment donné de cette semence royale, puisqu'il devait être descendant d'Abraham, il est déjà arrivé au déluge à réduire l'humanité à combien de personnes? 8, hein, il a presque réussi. Mais il y a eu l'arche, il y a eu Noé. Alors 8 personnes ont été sauvées pour continuer le genre humain d'où devait naître le Messie qui serait en bénédiction pour toute la terre, le libérateur qui écraserait la tête du serpent. Mais ensuite, il y a l'histoire d'Abraham. Alors on commence à savoir d'où naîtrait le Seigneur, de la famille des Hébreux, de la famille d'Abraham. Et puis ensuite Isaac, Jacob, et de Jacob il y a Judas, n'est-ce pas? Et il fera tout aussi pour détruire ce peuple qui est captif pendant 400 ans, ou en Égypte, il entre dans le cœur du Pharaon pour exterminer tous les enfants, mal, mais il y a la réaction, Dieu réagit par Moïse. Finalement, c'est la suite, c'est la délivrance de l'Égypte, le désert. Il essaye de les faire périr où? Dans le désert. De sorte qu'il n'y a que deux hommes, Josué et Caleb, qui sortent d'Égypte et qui entrent dans le pays de Canaan. Mais Dieu est fidèle. Mais au temps des rois, qu'est-ce qui se passe? Une femme mauvaise, la fille de Jézabel, qui s'appelle comment? Athalie, ne me dites pas que ce n'est pas intéressant l'Ancien Testament. Athalie, n'est-ce pas, fait périr toute la semence royale, et il en reste combien? Un. Qui? Zoaz, qui est caché, et qui à l'âge de 6 ans est manifesté. Zoaz, fils de la descendance royale, fils de David. Et puis en finale, quand les temps sont accomplis après l'exil de Babylone, où Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit, donc rien ne peut s'accomplir, Satan semble triompher. Voilà qu'un résidu est réveillé et retourne à Jérusalem sous Zorobabel, Josué, etc. Vous pouvez suivre ce tableau merveilleux. Le temple est reconstruit, mais voici que les Romains occupent la terre promise, quand enfin naît le Messie. Mais que fera Satan? Eh bien, il calomniera d'abord cette pauvre vierge qui sera enceinte du Saint-Esprit, qui va croire cela. Et la Vierge devrait mourir parce que Joseph est un homme juste, mais quand même, il a la crainte de Dieu, il sait bien que ce n'est pas de lui, de ses œuvres, que Cette jeune fille est enceinte, ils n'ont pas cohabité comme on le sait aujourd'hui, hein. Il y a encore une morale, et voilà que l'on dira ben, que Jésus était le fils de Joseph. Puis né à Bethléem, comme il doit naître à Bethléem, mais 30 ans après, après qu'il y ait eu le massacre des enfants de Bethléem, l'exil en Égypte, le retour a lieu où? À Nazareth. Et 30 ans plus tard, quand Jésus paraît au Jourdain, qui se souvient que Jésus est né à Bethléem? C'est pour ça qu'il y a créé toutes sortes d'obstacles pour que on ne croit pas qu'il est le libérateur. Parce que l'Écriture dit que le Messie doit naître à Bethléem. Et qui s'en souvient? Il y avait quelques bergers, il y avait Marie, il y avait Joseph. Et puis voilà comment on peut suivre cette attaque de Satan contre le Messie. Et surtout, quand il commence son ministère, qu'est-ce que Satan ose faire après son baptême? Au désert, le tenter. Tandis que Adam et Ève ont été tentés dans un jardin de délices et de charme, c'est au désert, au milieu des bêtes sauvages, que Satan se présente. À quel moment? Quand Jésus a faim. Et vous connaissez les trois tentations, n'est-ce pas? Change, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple, n'est-ce pas? Quelque chose de spectaculaire. Et ça va imposer ta personne au monde. Et si tu es le Fils de Dieu, ben, écoute-moi, je peux te donner tous ces royaumes de la terre qui m'ont été donnés. C'est pas vrai, c'est un menteur. Hein? Il a usurpé, c'est vrai qu'il est le prince de ce monde. Et le Seigneur le reconnaît. Hein? Mais Jésus triomphe de toutes ses tentations par le « il est écrit hein? ». Et là, il nous donne un exemple. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus ne sort pas de sa dépendance de Dieu avec Satan. Comment traite-t-il Satan? Par la parole. Comment allez-vous traiter Satan, vous, dans vos tentations? Par la parole. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Mais il faut la connaître, cette parole. C'est pourquoi il faut la manger, il faut s'en nourrir, il faut qu'elle ne soit plus dans les couvertures de la Bible. Et alors, vous apprendrez les méthodes de Jésus. Jésus a triomphé de Satan pour que nous sachions comment triompher de lui, pour que nous sachions comment nous aussi, nous pouvons avoir la victoire. Mais Satan attendait l'occasion favorable. Il entre dans le cœur de qui? De Judas, un disciple, mais qui ne s'est jamais jugé de certaines tendances. Mais bien aimé, il y a peut-être des tendances naturelles dans votre cœur. Quelle était la tendance naturelle de Judas? Il aimait l'argent. Aimé. Une demi-heure avant de quitter Montréal, une personne me disait, oh, vous savez, j'ai fait cela pour ma sécurité. Elle n'a pas pensé à d'autres choses qui pouvaient entrer en ligne de compte. Ce qui compte d'abord, c'est notre sécurité matérielle. Dieu n'est pas là. Ma sécurité, que j'ai ma sécurité. Et Dieu, ça sera assez tôt sans occuper après. Dans les derniers moments, alors oui, on sortira le bon Dieu. Oui, Dieu est bon, mais il n'est pas le bon Dieu. On ne le met pas à toutes les sauces. Il règne, il est saint, il est juste. Et c'est avec un Dieu saint et juste que nous voulons avoir affaire. Eh bien, Judas ne s'est jamais jugé de cette tendance. Et pourtant, Dieu lui a donné 3 ans pour cela. Et il a été vaincu par son amour de l'argent, qui l'a conduit à quoi? À la mort, au suicide. Parce qu'il a joué avec Jésus. Il a certainement cru que Jésus allait se déprendre. Il l'avait vu sortir de tellement d'attentats. Il va s'en sortir. Et il ne s'en est pas sorti. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous sauver. Parce qu'il n'était pas mort. nous serions encore dans nos péchés. Il fallait qu'il meure pour nous donner la possibilité de mourir, nous aussi, dans sa mort à notre propre vie, pour connaître dans sa vie de résurrection une vie vraiment nouvelle. Et alors que tout a été accompli à la croix, que Jésus nous a aimés jusqu'à la mort et qu'il a vaincu Satan par sa mort, maintenant, quand nous recevons Jésus comme sauveur personnel et qu'il entre dans notre vie, qu'est-ce que Satan fait? Il ne peut plus s'attaquer à Jésus lui-même, au Jésus céleste. Alors à qui s'attaque-t-il? À son corps. Et qu'est-ce qu'il cherche à empêcher? Il cherche à empêcher que les chrétiens manifestent quelque chose de la vie de la terre. C'est pourquoi le témoignage des chrétiens est si souvent triste. Qui est là contre nous, contre notre témoignage? C'est Satan. Et souvenez-vous qu'il s'est attaqué à qui, Satan? Il s'est attaqué à Jésus lui-même. Alors combien plus peut-il s'attaquer à nous? Satan disait, Jésus disait, Satan a demandé à vous cribler comme on crible le blé. Il avait demandé à Dieu aussi, il avait jeté un défi à Dieu au sujet de quel patriarche? Job, n'est-ce pas? Et puis, au temps justement de la captivité de Babylone, il s'est attaqué au souverain sacrificateur qui s'appelait Josué, n'est-ce pas? Et puis, Josué était couvert de vêtements sales, puis Satan était là pour lui montrer les fautes de Josué. De sorte que il s'est attaqué à David, et il s'est attaqué à qui aussi? Quelqu'un qui avait eu des révélations extraordinaires. À l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Une écharpe de Satan. Alors, c'est dans le programme que vous ayez à lutter contre, non pas contre le sang et la chair, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes et qui vont bientôt être exclus des lieux célestes. Car Jésus en a triomphé. Mais voilà maintenant, vous savez pourquoi vous avez un ennemi. Mais cet ennemi n'est pas le plus fort. Il a été vaincu. Alors même s'il rôde autour de vous, comme le dit l'apôtre Pierre, comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer, vous croyez que Satan va vous dévorer? Vous croyez que Satan peut vous toucher? Lisez l'épître de Jean. Satan ne vous touchera pas. Le malin ne le touche pas. Si vous avez accepté Jésus et que vous demeurez en lui, le malin ne peut pas vous toucher. Et personne ne peut vous ravir votre joie. Il peut y avoir toutes les puissances démoniaques. Eh bien, mes amis, les puissances démoniaques, elles sont vaincues. Et pour que vous ne disiez pas que je vous ai pas assez lu l'Écriture, je vous lis pour votre méditation ces quelques versets de Marc chapitre 5 et c'est vous qui les méditerez ce soir. Je reprendrai, puisque j'ai fait plutôt une introduction générale, je reprendrai demain et je vous lis simplement ce chapitre 5 de Marc. Vous trouverez le premier fond de mon message, Jésus vainqueur de la puissance du diable, même avant la croix. Puis, si vous lisez tout le chapitre, vous y verrez Jésus vainqueur de la maladie, d'une maladie incurable, et ensuite Jésus vainqueur de la mort. Jésus vient de traverser une tempête avec ses disciples. Dans la tempête, il était endormi dans la barque. Les disciples ont cru périr. Ils ont réveillé le Seigneur. Ne t'inquiétez pas, nous périssons. Verset 30 du chapitre 4. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il dit, oh grand calme, toute autorité m'a été donnée. Hein. Il a autorité sur le vent. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mort et la mer? Vous avez déjà pensé, qui est Jésus? Mais qui est-il Jésus? Vous connaissez l'histoire de Jésus? Ça ne suffit pas. Qui est Jésus pour vous? Actuellement, aujourd'hui, quelle est la délivrance qu'il vous a donnée? Quelle parole vous a-t-il dit d'une façon vivante et personnelle? C'est ça la vie chrétienne, quand on est habité par lui. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et souvenez-vous que Jésus, c'était le créateur des cieux et de la terre, celui qui avait fait l'homme à son image. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme. Oh, comment le Créateur a-t-il retrouvé l'humanité? Regardez cela. Il trouve un homme sortant des sépulcres. Dieu avait créé l'homme en le mettant où? Dans un jardin de délices et de charme. Il le retrouve où? Dans les sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Quel était l'esprit qui animait Adam quand il nommait tous les animaux de la terre? L'esprit de Dieu. Et maintenant, c'est un pauvre homme possédé par un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Vous voyez, il avait une force décuplée. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. N'est-ce pas l'homme naturel maintenant, sous la puissance de Satan, que aucune loi ne peut retenir? Ils ne font n'importe quoi. On vous dit qu'il y a le sida. Eh bien, nous continuerons l'homosexualité. On sait bien comment s'attrape le sida, mais on continuera quand même. Rien ne peut vous lier. Voilà l'homme dans son état naturel. Eh bien, que le Seigneur nous parle par ses lectures. Vous allez la méditer vous-même. Il était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec les pierres. C'est pas ce que vous voyez, n'est-ce pas ce que vous voyez constamment dans vos télévisions et autres, des hommes qui se meurtrissent, qui se font du mal à eux-mêmes et qui hurlent sous un ciel qui leur paraît vide. L'homme se fait du mal à lui-même, ayant vu Jésus de loin. Oh, s'il pouvait seulement voir Jésus de loin en chacun de nous. Il a couru et se prosterna devant lui. Vous voyez ici notre témoignage était ce qu'il doit être. Il y a des gens qui viendraient à nous, qui accourraient à nous, tout possédés qu'ils sont. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Jésus, fils du Dieu très haut. Il y avait bien une différence, mais maintenant, tous les chrétiens, les gens du monde, il n'y a presque pas de différence, on ne sait pas qui est chrétien. Il ne suffit pas de mettre un verset biblique ou une affiche et qui fait quelque chose. Hein. C'est d'avoir le cœur dans le Seigneur. Il lui dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Alors que Jésus pourrait nous habiter pleinement. Vous avez tout pleinement en Christ. Vous pouvez recevoir la plénitude de l'Esprit. Et puis on est si peu habité, on a juste une petite place pour Jésus, pour être sauvé. On a le petit salut, comme s'il y avait un petit salut. Connaît le si grand salut. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. Voyez pourquoi ils nous prennent, hein? L'estime de Satan pour nous. Autant buter dans les pourceaux que dans un homme. Puis les hommes sont des pourceaux. Hein? C'est bien ce que nous devenons. Loin de Dieu, nous sommes des pourceaux. Et Jésus le leur permit. C'est drôle, hein? Pourquoi cette destruction de tous ces pourceaux? Est-ce qu'ils avaient le droit, les juifs, de manger du porc? Non, alors, ils transgressaient la loi. Mais peut-être que ce n'est pas eux qui mangeaient le porc, mais ils cultivaient les porcs pour les donner aux païens. On n'est pas responsable s'ils en mangent, mais nous, on fait de l'argent avec les païens. Et s'ils n'ont rien à apprendre, Jésus le leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Vous voyez, meurtrier, menteur et meurtrier, c'est le signe du diable. Ceux qui les faisaient paix s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait une légion, qui était la terreur du pays. Puis ils le voient assis. Quand Jésus est dans une ville, il lui donne le repos. Nous savons ce que c'est être assis, vêtu, il était nu. Être vêtu, vêtu, dans son bon sens, avoir retrouvé son bon sens. Quelle heure! Voilà ce que le Seigneur fait. Il nous redonne le bon sens. Alors ils furent saisis de frayeur au lieu de se réjouir. Et ceux qui avaient vu ce qui était arrivé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Et quel est le résultat? Ils le prièrent de quitter leur territoire. Il n'y a bientôt plus de place pour Jésus. Alors qu'ils en avaient tellement besoin. Mais comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Et Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison. Nous voudrions toujours attirer tout de suite dans notre groupe, hein, les âmes. Va d'abord dans ta maison. Et vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a été de toi. Nous voudrions nous embarquer avec Jésus, Jésus ne le permet pas. Il y a d'abord un témoignage à rendre, là où on est connu, et c'est là qu'il faut témoigner. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout sur dans l'étonnement. Et c'est ainsi que cet homme a préparé le retour du Seigneur. Et quand il est revenu dans la contrée, eh bien, on l'a reconnu. Et on lui a amené les malades et tous ceux qui se portaient mal. Ils étaient là pour ça. Mais on n'a pensé qu'à la terre, qu'au pourceau. Jésus, vainqueur de Satan. Et nous, vainqueurs, en Dieu, prions. Oh notre Dieu, nous savons que Satan est vaincu. Et tu nous as donné, puisqu'il est encore là, pour le combattre et combattre toutes les puissances sataniques, tu nous as donné une armure complète. Et nous voulons en être revêtus. Puisque notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre toutes ces puissances, donne-nous d'avoir toutes ces armes de Dieu. Et que dans ta grâce,
en attendant ce moment où Satan, le serpent ancien, le grand dragon, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, en attendant qu'il soit précipité sur la terre avec ses anges, oh, que nous puissions avoir déjà cette vision de cette complète victoire, de la manifestation de ta puissance, Seigneur Jésus, et de ton règne, d'autorité, de ton Christ. Quand Satan sera précipité, lui qui est appelé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, oh, que nous puissions le vaincre à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Et que nous n'aimions pas notre vie, même jusqu'à craindre la mort. Que nous soyons délivrés de toute peur, et surtout de cette peur de Satan. Nous savons qu'il voudrait bien que nous croyions qu'il n'existe pas, mais nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il est une réalité. Nous savons que tous les jours, il voudrait nous prendre des faux. Mais nous avons le bouclier de la foi, par lequel nous pouvons éteindre tous les dards enflammés du malin. Donne-nous d'être vraiment des hommes et des femmes qui savent que Satan est vaincu et qui le lui rappellent et qui savent lui résister afin que son fils loin de lui et que nous puissions être entièrement occupés du bien des âmes, et non pas toujours de la puissance de l'ennemi. C'est la grâce que nous te demandons aujourd'hui, et nous te prions de nous accorder une nuit de respect, une nuit de paix, et de nous préparer pour les autres messages que tu veux nous donner en Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Du bonheur de Dieu. C'est quelque chose. Dieu, l'être infini, nous dit qu'il est pleinement satisfait en son Fils, en son Fils. De toute éternité, il a fait son Fils. Et il voudrait que notre plaisir à nous qui sommes sur la terre, en attendant d'être dans sa demeure, dans la demeure de la maison du Père, c'est que nous ayons le même bonheur que Dieu. Eh bien, je souhaite de tout mon cœur que ces réunions puissent contribuer à nous donner ce bonheur. Je me permettrai de relire le texte qui donne le thème de cette fin de semaine. Dans le chapitre 28 de Matthieu, la parole du Christ ressuscité et qu'il prononce sur une montagne de Galilée devant ses disciples, entourés probablement de ses 500 frères dont nous parle l'apôtre Paul dans chapitre 15 aux Corinthiens. Tout pouvoir ou toute puissance ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et hier soir, après notre introduction générale, nous sommes occupés du pouvoir, de la souveraine autorité de Jésus sur le plus grand de nos ennemis, qui n'est autre que Satan. Et nous avons essayé de vous rappeler, selon les Écritures, l'origine de Satan. Un ange déçu, mais un ange pourtant. Un ange qui était une créature lumineuse de Dieu, qui devait être un porte-lumière, Lucifer, sur la création de Dieu et qui a osé s'élever contre son créateur. Et nous avons cherché quel pouvait être ce motif qui a poussé l'ange qui gouvernait cette création si merveilleuse et si belle où tout était comme Éden. Il semble que le jardin d'Éden de cette création présente était comme un sourire de ce qu'avait été cette merveilleuse création dont nous avons une description dans le chapitre 28 du prophète Ézéchiel. Eh bien, ce chérubin protecteur qui est devenu l'adversaire de Dieu, pourquoi son cœur s'est-il enflé? Pourquoi a-t-il voulu supplanter Dieu, s'opposer au dessein de Dieu? On peut penser, dans l'analogie de la foi, que c'est au moment où il a réalisé que le plan de Dieu de toute éternité était la création d'un être au bonheur duquel Dieu allait travailler et qu'il prédestinait, selon Romains 8, versets 28 et suivant, il le prédestinait à être. À l'image même de son fils. Donc un être qui serait supérieur aux anges, supérieur à Lucifer. Et c'est ainsi que, voulant s'opposer à Dieu, il fut déchu. Mais il semble bien que dans la chute du diable, toute la création sortie si belle des mains de Dieu a été elle-même bouleversée, entrant dans ce tohu-bohu que nous trouvons au chapitre 1er de la Genèse, au verset 2e. De sorte que, disions-nous, depuis le verset 3e, nous assisterions surtout à l'action de Dieu pour recréer ce monde selon sa propre volonté afin d'accomplir son destin et qui était la création de l'homme prédestiné à être semblable à son fils. Et nous avons pu comprendre pourquoi Satan, adversaire de Dieu, est devenu l'adversaire de la création de Dieu, adversaire de l'homme, à chercher dès l'origine à séparer l'homme de son créateur en lui faisant croire qu'il pouvait devenir indépendant de Dieu et parvenir à cette gloire à laquelle il était pourtant destiné, mais y parvenir sans Dieu, par ce chemin qui lui avait été interdit, le chemin de la connaissance du bien et du mal. Alors que l'arbre de vie qui était au milieu du jardin ne lui était pas interdit. L'homme n'a pas mangé du fruit de l'arbre de la vie, mais il a mangé le fruit de la connaissance. Et vous voyez maintenant toute l'humanité encore engagée dans ce chemin de la connaissance, et une connaissance qui arrive à son fait de sorte que l'homme lui-même a peur de cette connaissance, et il n'arrive plus
à la contrôler de telle sorte que l'on est presque à la veille de terribles cataclysmes. Il semble que l'homme devient capable de tout détruire et on voudrait un contrôle mondial de cette connaissance. Alors, j'ai essayé de vous brosser ce tableau de l'adversaire de Dieu qui devient l'adversaire de l'homme, mais qui n'est qu'une créature de Dieu, et je voulais souligner que vous ne devez jamais faire du diable un autre Dieu qui s'opposerait, qui serait omnipotent, omniscient et omniprésent. Le diable n'est qu'une créature. Souvenez-vous de cela. Créature de Dieu, très libre, mais qui s'est révolté. Et nous avons cité le passage où Jésus lui-même nous montre que l'origine du mal est dans le cœur de cet être qui, dès le commencement, n'a pas persévéré dans la vérité, mais à cause de cet orgueil, il a osé s'opposer à Dieu. Et le mal, c'est une opposition au bien, une opposition à Dieu. Le mal était une possibilité, et c'est Satan qui en a fait cette possibilité. Et il est devenu le père du mensonge, le meurtrier dès le commencement. Et j'ai souligné que le meurtre et le mensonge étaient le signe du satanisme. Partout où il y a mensonge et meurtre, c'est Satan qui est derrière. Et quand on pense à ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années dans notre Europe avec un homme comme Hitler et les camps de concentration, les fours crématoires, on peut bien voir la marque de Satan qui inspirait Hitler. Eh bien oui, c'était un de ceux auxquels Satan avait proposé aussi le gouvernement du monde. Jésus y avait résisté, mais combien d'hommes ont cru qu'ils pourraient dominer le monde, avoir autorité sur le monde entier. S'ils faisaient la petite courbette devant Satan, je te donnerai toutes les puissances. Il y a eu César, il y a eu d'autres hommes avant César qui ont voulu avoir la domination mondiale. Il y a eu même Napoléon et puis Hitler en particulier qui s'est laissé séduire et qui a cru qu'il allait faire une ère nouvelle. Et vous savez comment tout cela s'est terminé. Mais ce Satan que nous avons vu dans la première page dans les premières pages de l'Écriture, qui séduit Ève et Adam et qui en fait au fond ses esclaves, prend la place de l'homme et au fond c'est lui qui domine le monde. Ce n'était pas à lui à dominer le monde, c'était à l'homme, n'est-ce pas? Et Satan est un destructeur. Alors, je ne vais pas m'allonger sur ce que nous avons vu hier, mais nous pouvions voir ce combat gigantesque entre l'adversaire de Dieu et Dieu lui-même, dont le plan envers et contre tout s'accomplira, mais par un chemin beaucoup plus long. Le risque d'une création libre, d'une créature libre, Dieu l'avait couvert par le plan de la rédemption. Au cas où l'homme disait non à Dieu, eh bien Dieu ne serait pas pris au dépourvu, mais il y avait l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde pour être manifesté au temps propre. Jésus qui viendrait comme l'agneau de Dieu annoncé par Jean-Baptiste
et qui donnerait sa vie pour nous racheter, de sorte que l'humanité n'est pas rachetée par de l'or ou de l'argent, par des choses corruptibles, mais véritablement par le sang précieux du Christ. Et c'est par ce sang-là aussi que le diable lui-même est un ennemi vaincu. De sorte qu'il n'est pas question seulement que Jésus a vaincu Satan, mais ceux qui sont au Christ, ceux qui sont en Jésus, doivent aussi connaître la victoire totale sur Satan. Et nous devons traiter Satan, quand on est au Christ, comme un ennemi vaincu. Demeurez dans le Seigneur et le malin ne vous touchera pas. Souvenez-vous de ce que Jésus disait dans la nuit même où il a été livré. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et voyez-vous, ça c'est un verset capital. Pour nous les croyants, nous ne devons rien tolérer dans notre cœur qui puisse être une tête de pont pour le diable. Le prince de ce monde vient, disait Jésus, mais il n'a rien en moi. Il ne pouvait pas trouver en Jésus quoi que ce soit qui soit un acquiescement à son pouvoir et à sa puissance. Et c'est pourquoi nous le disons souvent, ne tolérez rien dans votre cœur qui donne l'occasion à Satan de vous séduire. Vivez dans le jugement quotidien de vous-même, afin que vos pensées soient amenées captives à l'obéissance du Christ, et vos paroles aussi, qu'elles soient des paroles dont vous êtes conscient que Dieu les entend, car de toutes nos paroles, nous devrons un jour rendre compte. Et il y a des paroles qui ne doivent plus passer sur les lèvres d'un être qui est régénéré. Si je me laisse aller à certaines expressions, certainement, la puissance du Saint-Esprit, qui est une personne sensible en nous, nous juge et nous le signale. Nous nous sommes allés peut-être laisser aller à une plaisanterie et le Saint-Esprit est contristé. Et alors nous nous jugeons de la chose. Oh, combien c'était vrai que j'avais besoin d'un grand sauveur. Quand je vois ce que je suis capable encore de dire, quand je laisse ma nature se manifester, la vieille nature, car c'est toujours de la vieille nature qu'il s'agit. Et puis, nos actes aussi, eh bien, sont le prolongement visible de nos pensées, comme nos paroles sont le prolongement audible de ce que nous pensons. Alors, vivons dans ce jugement de nous-mêmes, et le malin ne nous touchera pas. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit, n'est-ce pas ? Le malin ne nous touchera pas. Si nous sommes en Jésus, si nous demeurons en Jésus, le malin ne peut pas nous toucher. Mais il peut rôder autour de nous, comme le dit l'apôtre Pierre dans son épître, cherchant qui il pourra dévorer, de sorte que nous devons être sur nos gardes. Et quand la présence de Satan se fait sentir, nous pouvons alors lui dire, arrière de moi, Satan. Nous avons l'exemple de Jésus qui refuse de sortir de sa dépendance. Le secret d'une vie chrétienne heureuse, c'est de vivre dans la dépendance de Dieu et d'attendre le signal de Dieu, de ne pas vouloir nous en sortir nous-mêmes, mais d'aller à lui et d'avoir cette patience qui nous fait dire « Dieu répondra ». Et le Seigneur l'a expérimenté, puisque quand il a eu vaincu toute tentation, les anges vinrent et le séduisirent. Les anges de lumière qui sont restés fidèles à leur Dieu et qui, pour nous les croyants,
sont les serviteurs de Dieu qui travaillent à l'égard de ceux qui doivent hériter du salut. De sorte que nous connaissons aussi l'aide toute puissante des anges. Sans même que nous les voyons, nous savons que même nos petits-enfants, nos enfants, ont un ange, ce qui est devenu l'histoire de l'ange gardien, mais qui a un fond de vérité. Leur ange voit continuellement la face de leur père qui est dans les cieux. Et pour qu'un enfant arrive à l'âge adulte, avec tous les dangers du chemin, il faut bien qu'il y ait un ange gardien, hein, qu'il soit gardé par une puissance souveraine. Hein. De sorte que nous connaissons peut-être trop peu l'activité des anges. Mais en tout cas, nous ne sommes pas des sadducéens qui ne croient pas aux anges, nous croyons aux anges. Et nous pensons aussi qu'il y aura une grande manifestation angélique dans la création lors de l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église, les croyants, ceux qui appartiennent au Seigneur, seront soudainement enlevés et disparaîtront de ce monde, nous pensons bien qu'il y aura là une action angélique avec le Seigneur, parce que c'est au cri de commandement du Seigneur et à la voix de l'archange, n'est-ce pas, au son de la trompette de Dieu. Il y a bien des choses qui nous paraissent encore mystérieuses, mais cet enlèvement subi des croyants peut avoir lieu d'un instant à l'autre. Et le Seigneur ne nous a pas trompés. Il a dit qu'il s'en allait auprès du Père, dans la maison du Père, nous préparer une place et qu'il reviendrait. Et il a dit, s'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Alors nous sommes de ceux qui vivons dans cette bienheureuse espérance. Si nous sommes sauvés, nous le sommes pour servir le Dieu vivant et vrai pendant le temps de notre existence terrestre et pour attendre Jésus du ciel qui nous délivre de quoi ? De la colère à venir. Ah oui, la colère s'amasse sur le monde. Elle s'amasse sur le monde et elle vient, elle va éclater. Le Seigneur nous a dit qu'on ne savait ni le jour ni l'heure de sa venue. Et c'est bien simple de le comprendre, puisqu'avec le fuseau horaire, on ne peut pas donner une heure. Ce ne sera pas la même heure pour ceux qui sont dans l'autre hémisphère, c'est clair. Hein? Et ce ne sera pas même le même jour. Alors il n'y a pas le jour, il n'est pas dit le jour ni l'heure. Mais ça peut arriver d'un instant à l'autre. Il y a une précision dans la parole admirable, extraordinaire. Mais l'époque de son retour, n'est-ce pas ? Eh bien, nous est décrite comme étant semblable au jour de Noé. Qu'est-ce qu'il y avait au jour de Noé ? Eh bien, il y avait des géants sur la terre, comme vous les voyez aujourd'hui. Hein. Ce mélange du religieux et du profane produit des géants. Mais c'était un temps de prospérité quand même. On mangeait, on buvait, on mariait, on donnait en mariage. La vie continuait, mais la violence, l'injustice, le meurtre était sur la terre. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans les journaux, c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans un monde qui est devenu un village à cause de la télévision. En quelques instants, quelques secondes, vous passez d'une image à l'autre et au fond, on peut bien comprendre que les gens fassent des dépressions quand ils voient tous ces drames. Alors qu'autrefois, quand il se passait un drame dans un certain pays, il fallait 6 mois avant que l'autre contrée l'apprenne. Tandis que maintenant, en quelques secondes, vous avez tout ensemble. Le monde est devenu un village. Oh, mes amis, nous ne voulons pas nous laisser effrayer, mais nous savons que ce sera un temps comme au jour de Noé. Et nous savons que ce sera un temps comme au temps de Sodome et de Gomorre, Qu'est-ce qu'il y avait dans les villes de la plaine? Eh bien, il y avait la transgression ouverte des lois naturelles, des lois divines que Dieu a instituées, que les païens aussi connaissent, de sorte qu'ils sont responsables de leurs actes. Nous n'avons pas le droit de transgresser les lois naturelles. Eh bien, voilà que l'on a introduit le péché contre nature. Sodome et Gomorre, eh bien, vivaient dans l'immoralité la plus grande. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on entend, qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on fait? On veut légaliser tout ce qui est contre nature. Donc, c'est quand même bien un signe. Et nous avons parlé juste en passant, même du sida. Eh bien, c'est signes-là et ces maladies, ces choses terribles qui devraient parler au cœur des hommes, c'est comme il est dit dans l'Apocalypse, malgré tout cela, les hommes ne se repentirent pas. C'est tout le contraire qui se produit, puisque la semaine dernière, dans le Danemark, dit chrétien, eh bien, l'officier d'état civil a consacré des mariages d'homosexuels ou de lesbiennes. Voilà où nous en sommes arrivés. Alors, vous savez, la coupe va déborder parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc, nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps, et il y a une recrudescence de tout ce qui est satanique aujourd'hui. Il y a, ma sœur m'écrivait la semaine dernière, que les enfants, même en Suisse, disparaissent. Et l'on se demande où ils sont, on ne les retrouve pas. Et l'on sait qu'il y a un culte qui est voué à Satan, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit partout, et que ce soit au Québec aussi. Et il y a des choses épouvantables qui se produisent. Il y a eu cette fameuse réunion au Forum à Montréal, où l'on donnait son cœur à Satan, imitation Billy Graham, avec des conseillers pour dire aux jeunes de 13, 14, 15 ans qui étaient là et qui remplissaient la salle, comment il faut donner son cœur à Satan. Et alors, avec la drogue et tout le reste, eh bien, on a eu des dégâts dans les métros de Montréal et tout ce que vous voulez. Et on laisse faire ces choses. Nous sommes un peuple libre. Mais nos enfants, frères et sœurs, et nos gouvernements, combien nous devrions prier davantage pour que ceux qui nous gouvernent ouvrent les yeux et qu'ils aient encore au moins un peu la crainte de Dieu qu'avaient vos pères. N'oubliez jamais cela. Il y a eu dans ce Québec des hommes et des femmes qui n'avaient pas les lumières des évangéliques, mais ils avaient encore un peu la crainte de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Il faut le reconnaître. Et si vous avez pu avoir un peu plus de lumière et arriver à l'assurance de votre salut, alors qu'avant vous aviez peur peut-être, eh bien, bénissez Dieu et ne soyez pas de ceux qui oublient que le premier commandement avec promesse, c'est honore son père et sa mère. Et n'allez pas, parce que vous avez plus de lumière, laver la tête à vos parents en leur faisant les reproches qu'ils vous ont aiguillés dans une mauvaise religion, etc. Ils vous ont donné ce qu'ils avaient. Et c'est cela que nous devons reconnaître et nous courber et demander à Dieu de nous donner des cœurs de grâce et de savoir prier. Et surtout de montrer à ceux qui nous ont donné le jour que nous les aimons et que nous prions pour eux, et que nous restons humbles, mais que nous les honorons. Et un jour, ils peuvent nous demander la raison de cette vie transformée, de cette vie changée, qu'ils sont les premiers peut-être à constater, car j'ai vu des parents pleurer parce que leurs fils et leurs filles se droguaient, parce qu'ils couraient dans les bars, dans les tavernes, ils pleuraient. Puis tout à coup, voilà que, par la grâce de Dieu, tous ceux qui rencontrent des évangélistes se convertissent. Mais au lieu qu'on lui montre qu'il a une responsabilité vis-à-vis de ses parents, qu'il doit peut-être les remercier pour ce qu'ils ont fait, qu'il a leur demander pardon d'abord, ils vont pour leur laver la tête, se mettant sur une échelle, n'est-ce pas, pour leur parler d'en haut. Et on ne voit pas tellement que leur vie a encore changé, viennent se convertir. Et alors pour les parents, qu'est-ce que c'est? Ils ont changé de religion. Et c'est le drame, comprenez-vous? C'est le drame, ils ne sont pas préparés à cela. Ce n'est pas changer de religion, c'est changer de vie, c'est recevoir la vie de Jésus. Et vous savez, Jésus respectait le cheminement des âmes de chacun. Et il admirait même la foi des païens. Quand il découvrait chez un païen cette foi, il était émerveillé et il disait aux gens d'Israël, « Je n'ai jamais vu en Israël une pareille foi. » Eh bien, mes amis, j'ai beaucoup prié avant cette réunion aussi pour demander à Dieu que ce soit lui-même qui structure le message pour que ce message puisse correspondre à vos besoins au lieu de vous apporter quelque chose de tout claqué. Mais pour terminer au sujet de Satan, dont nous avons parlé hier, vous le voyez jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, et en particulier dans le chapitre 12, on voit qu'un jour il sera chassé du ciel. Quand? Eh bien, quand l'Église aura été enlevée, alors la place de Satan sera sur la terre. Et ce sera une chose terrible. Après ce grand combat entre l'archange Michel et Satan et ses puissances, Satan est jeté sur la terre et il est dans une grande fureur parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et alors il donnera sa puissance à un homme qui l'acceptera et qui est peut-être déjà en vie, qui est l'Antichrist, qui fera toute espèce de miracle, de prodige mensonger. Et vous savez, il y a une préparation psychologique dans ce monde pour la venue de cet homme de péché dont nous parle l'Écriture et qu'annonçait Nietzsche, ce génial démon qui, dans la fin du siècle dernier, souhaitait la venue de ce surhomme après avoir transmué toutes les valeurs. Et nous savons qu'Hitler et Mussolini se sont nourris des œuvres de ce Nietzsche qui avait un père pasteur, un grand-père pasteur, et qui a absolument tout renié les vérités du Christ. Oui, c'est l'apostasie, le rejet ouvert des vérités du christianisme que nous voyons. Et quand Satan sera là, donnant son pouvoir à cet homme, et bien même en Israël, Jésus l'avait dit, quand il en viendra un, en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Et mes missions en Israël me l'ont prouvé. On est tout prêt à recevoir ce surhomme qui se fera passer pour qui? Pour le Messie. Et qui donnera une espèce de délivrance à Israël par une alliance avec la Confédération européenne réorganisée. Eh bien, quand il y aura cette alliance, il montrera son vrai visage et ce sera pour Israël la grande tribulation. Et pour le monde entier, l'heure de la tentation. Cette heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière et dont Jésus avait enseigné dans sa prière de demander « Garde-nous, n'est-ce pas, de la tentation. » Cette tentation eschatologique qui vient sur la terre entière, « Garde-nous de l'heure de la tentation. » Eh bien, mes amis, ce qui est merveilleux pour le croyant, à quelques dénominations qui appartiennent, si son cœur est lié non pas à des doctrines, mais à une personne, à Jésus, il sait qu'il échappera
a cette colère qui vient sur le monde. Mais elle vient. Et les gens, même athées, les incrédules, savent bien que ça ne peut plus durer longtemps. Mais nous autres croyants, est-ce que nous vibrons à la pensée que le Seigneur vient, que nous allons le rencontrer, et que peut-être nous n'aurons pas même besoin de passer par la mort pour être auprès de lui, mais que nous serons en un instant transmués, finis nos épreuves, finis nos infirmités, nous serons enlevés. Et le diable, une fois de plus, sera vaincu. Car quand Jésus reviendra en gloire, et je sais qu'il y a d'autres pensées dans les milieux chrétiens, même évangéliques, mais quand Jésus reviendra en gloire, il reviendra comme le Christ total. Et le Christ total, c'est quoi? C'est la tête et son corps. Donc il faut que les membres de son corps aient été enlevés avant pour qu'ils puissent paraître aux yeux du monde dans sa totalité, comme l'apôtre Paul l'a vu, n'est-ce pas? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est la grande révélation que Paul a eue. Hein. Quand on touche un croyant, on touche à la tête. Et dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, il est dit « Ainsi aussi est le Christ, tête et corps réunis. » Alors, quand il revient en gloire, il est là dans sa totalité. Et quand on parle de œcuménisme, il vient la vraie unité, pour la première fois, sera vue par le monde, l'Église et le la tête et le corps. Et le monde verra alors ce qu'est le grand salut de Dieu. Le Christ total. Il revient alors pour juger le monde et il revient avec les siens et il manifeste les siens. Notre vie, pour l'instant, elle est cachée dans le Christ en Dieu. C'est le Christ que nous avons à manifester, mais quand il reviendra, c'est lui qui nous manifestera. C'est lui qui va nous montrer au monde. Nous n'avons pas besoin de nous montrer au monde. Ou que Dieu nous préserve de nous montrer nous-mêmes au monde. Parce que quand on se montre au monde, vous savez ce qui arrive, hein? Souvenez-vous des télé-évangélistes américains. Quand on veut trop se montrer au monde, tout à coup on est dévêtu. Hein? C'est vrai, hein? Et on y perd ses vêtements. Tandis que nous avons vu que le possédé de Gadara, quand il a été délivré, il a été trouvé vêtu, justifié et dans son bon sens. Alors, ne perdons pas notre bon sens et soyons vraiment de ceux qui attendent le Seigneur et qui nourrissent de l'Écriture, savent que nous pouvons vaincre Satan. Même si jour et nuit, il nous accuse, comme il a accusé Job, faussement, comme il a accusé bien d'autres personnes, comme il a essayé de détruire